Il est 8h.
Tous nos amis qu'on a au téléphone en France sont extrêmement déprimés, ont beaucoup souffert de cette situation et continuent à en souffrir, alors que moi, j'ai jamais entendu un tel témoignage en Suède.
Il n'y a jamais eu de confinement en Suède et les règles sont restées stables en un an de crise. Ce pays nous interroge, alors que l'Île-de-France risque un sérieux tour de vis sanitaire. Finalement, à quoi sert un confinement? Nous sommes à Stockholm, en direct, dans une minute. Il refuse de tirer sur son propre peuple et il risque désormais la peine de mort. Un soldat birman déserteur témoigne ce matin sur Europe 1. Et puis, une vente aux enchères de Bitcoin. Peut-être une bonne affaire pour les acheteurs, surtout pour l'État français qui va récupérer plusieurs millions d'euros. 8h15, l'interview de Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Est-ce que ce sera l'interview vérité? La présidente du syndicat étudiant LUNEV va s'expliquer sur l'affaire de l'IEP de Grenoble, ainsi que sur les accusations de dérive indigéniste. Sa présidente Mélanie Luce est mon invitée. Rendez-vous 8h15.
On vous retrouve tout à l'heure. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 8h, c'est avec François Geffrier. Bonjour François.
Bonjour. À l'époque, on devait imprimer une attestation, voire la recopier à la main. À l'époque, la moindre course alimentaire apparaissait comme une aventure dans un milieu presque hostile et sans masque. Et le silence s'était fait d'un coup dans les rues et les cours de récréation. Bref, c'était une autre époque. Et surtout, le confinement avait fonctionné puisque, deux semaines plus tard, les entrées à l'hôpital baissaient en France. Pour autant, un an plus tard, la pertinence d'un confinement a de quoi être questionnée quand on regarde ce qui s'est passé ailleurs.
Bonjour Victor Delande.
Bonjour.
En direct de Stockholm pour Europe 1. La Suède, seul pays qui ne s'est jamais confiné et qui n'a pas varié dans sa stratégie.
Oui, à seulement 2 heures de vol de Paris, c'est spectaculaire. On a l'impression de vivre hors du temps. Les bars et les restaurants sont ouverts. Seule restriction, être 4 à table. Les centres commerciaux n'ont pas fermé leurs portes, ni les salles de sport. Et ce qui frappe surtout quand vous vous baladez, c'est que très peu de Suédois portent le masque. Il est seulement recommandé dans les transports en commun, aux heures de pointe. Et cette exception européenne attire ici plein d'étrangers. J'ai croisé beaucoup de jeunes Européens et du monde entier qui n'en peuvent plus des restrictions dans leur pays. C'est le cas d'Iker, 20 ans, il vient de Bilbao en Espagne.
Les restrictions en Espagne m'ont plus touché que le virus lui-même. Ici, ce qui interpelle le plus et qui est très agréable, c'est qu'on n'est pas obligé de porter le masque. Je compte bien rester ici jusqu'à ce que les choses s'améliorent chez moi ou jusqu'à ce que je m'ennuie ici.
Alors, Victor, c'est quoi le modèle suédois exactement et surtout, est-ce qu'il marche ?
Alors toute la doctrine suédoise est basée sur la responsabilité individuelle avec quelques recommandations. La principale, c'est la distanciation physique que les gens respectent à la lettre. Il faut dire qu'ici, les concentrations de population ne sont pas du tout les mêmes qu'en France. Autre différence, les Suédois sont beaucoup plus disciplinés et quand on leur demande de moins se tasser dans les transports en commun, ils s'exécutent. Plus de précautions aussi dans les écoles. Dès qu'un enfant tousse un peu ou qu'il a de la fièvre, les parents doivent le garder pendant une semaine à la maison. Quant au télétravail, il est très bien appliqué. Pierre et Victoire sont français. Ces cadres vivent avec leurs 3 enfants à Stockholm depuis 4 ans. Et même s'ils ont conscience que ce modèle serait difficilement transposable en France, notamment pour des raisons culturelles, ils sont très heureux d'avoir vécu cette période en Suède.
On n'a pas du tout souffert d'une privation de liberté à aucun moment. Tous nos amis qu'on a au téléphone en France sont extrêmement déprimés, ont beaucoup souffert de cette situation et continuent à en souffrir, alors que moi, j'ai jamais entendu un tel témoignage en Suède.
Et ici, il n'y a pas de surprise, quoi. On n'attend pas l'allocution de la semaine prochaine ou de dans 2 jours pour savoir à quelle sauce on va être mangé. On sait que globalement, ils ont peut-être augmenté un peu la restriction ici ou là, mais ça ne va pas radicalement changer notre vie. Et en plus, on n'a pas le sentiment d'être infantilisé.
Victor, est-ce qu'on peut comparer les bilans entre nos deux pays ?
Oui, avec 13 000 décès pour 10 millions d'habitants, la Suède a enregistré, proportionnellement à sa population, un peu moins de morts qu'en France, où l'on a déjà vécu 2 confinements. Mais c'est 10 fois plus qu'en Norvège ou en Finlande, des pays voisins où il y a eu plus de restrictions. En fait, c'est un choix, les Suédois s'y tiennent. Et autre grosse différence notable, leur économie a été moins abîmée. Le produit intérieur brut a reculé l'année dernière, bien sûr avec la crise, mais 3 fois moins qu'en France.
Avec nous en direct de Stockholm, l'envoyé spécial d'Europe 1 en Suède. Merci Victor Delande.
Beaucoup d'informations dans ce reportage, on les retrouve dès à présent sur europe1.fr pour bien comparer les situations. Chez nous, en France, c'est mercredi, c'est conseil de défense, la routine ou presque, puisqu'hier soir, le Premier ministre a préparé les esprits à des décisions concernant l'Île-de-France, situation critique, d'autant plus que les transferts de malades vers d'autres régions sont plus difficiles que prévu, faute de patients réunissant les critères et dont les familles donnent leur accord. La suspension du vaccin AstraZeneca n'arrange rien.
Bonjour Anaïs Cordoba.
Bonjour.
Vous êtes pour Europe 1 à Londres, où la presse se déchaîne contre les craintes des Européens sur ce vaccin anglo-suédois.
Honteux, à quoi joue l'Europe, titre le Daily Express. Le chaos de la vaccination s'aggrave en Europe, estime le Daily Telegraph. La presse dans son ensemble prend la défense de ce vaccin et rappelle qu'ici, où des millions de doses ont été administrées, aucun lien avec des caillots sanguins n'a été constaté. Ces pays ont-ils perdu de vue l'objectif final, s'interroge la BBC qui conclut, au milieu d'une pandémie qui évolue très rapidement, cette approche risque de faire plus de mal que de bien. Le Daily Mail dénonce une décision imprudente. Le quotidien cite des sources à Downing Street qui suggèrent que ces suspensions visent à discréditer AstraZeneca qui n'a pas tenu ses engagements de livraison avec l'Union européenne.
Anaïs Cordoba en ligne de Londres. Et pour éviter de prendre encore du retard, il y a cette annonce du groupe pharmaceutique allemand Merck. Ce sera officiel cet après-midi, mais vous le savez déjà ce matin sur Europe 1. Un investissement en Alsace sur son site de Molsheim pour produire des sacs à vaccins, élément indispensable en ce moment et qui commence à manquer. C'est une information Europe 1, près de 300 emplois devraient être créés dans les prochaines années dans ce secteur stratégique.
Alors si on regarde à court terme, on s'attend à des mauvaises nouvelles, mais au-delà, il y a un horizon, notamment avec ce protocole sanitaire destiné aux restaurants et remis hier par le gouvernement.
Oui, document qui était évidemment très attendu, Élise Dangean.
Oui, c'est un protocole progressif qui s'étalera sur au moins un trimestre. La première étape est un petit pas, permettre aux clients des hôtels de prendre leur petit déjeuner dans la salle de restaurant de l'établissement. La deuxième, un mois plus tard, est en revanche attendue de tous, la fameuse réouverture des bars et restaurants. Mais attention, ce sera une réouverture partielle. La jauge sera fixée à 50% des capacités normales à l'intérieur des établissements, mais aussi en terrasse dans le cas des bars. Troisième et dernière étape, la levée des jauge et le retour à une quasi-liberté, toujours avec un mètre de distance entre les tables. Une lueur d'espoir pour Didier Chenet, président du groupement national des indépendants.
Nous avons enfin de la visibilité. Bien sûr, on n'a pas de date de réouverture, mais en tous les cas, aujourd'hui, on a enfin un plan de réouverture qui nous permet de pouvoir enfin s'accrocher à quelque chose et enfin se dire ça y est, on voit le bout du tunnel.
Il faut désormais attendre le feu vert du gouvernement qui dépendra de deux facteurs, le nombre de cas positifs au Covid-19 en France et le nombre de vaccinés. Les seuils n'ont pas encore été fixés.
Élise Dangean du service économie d'Europe 1. Une vraie révolution sociale chez Uber, uniquement au Royaume-Uni pour l'instant, mais ces chauffeurs, qui étaient des travailleurs indépendants, 70 000 au total, vont être salariés, ce qui leur donnera le salaire minimum et des congés payés. C'est une première dans le monde et cela fait suite à une décision de la Cour suprême locale.
Le procès en France de l'affaire Big Malion, du nom de cette société qui avait organisé les meetings de Nicolas Sarkozy en 2012.
Oui, scandale de fausses factures pour camoufler les frais de campagne faramineux, 43 millions d'euros au lieu des 22 millions autorisés. Les débats devaient commencer aujourd'hui mais seront certainement repoussés de plusieurs semaines car des avocats sont malades.
Vous restez avec nous dans un tout petit instant, ce témoignage exceptionnel, un déserteur de l'armée birmane qui refuse de tirer sur son propre peuple.
Et puis une vente aux enchères de Bitcoin qui va rapporter des millions à l'État français.
A tout de suite, il est 8h09.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Europe 1, il est 8h10, la suite du journal, François Geffrier.
Avec d'abord cette information, aux États-Unis, trois fusillades hier ont fait 8 morts dans des salons de massage d'Atlanta et d'une ville voisine. Un suspect de 21 ans est en garde à vue.
En Birmanie, des centaines de personnes sont portées disparues selon l'ONU.
Ils sont parlé des 180 civils, pour la plupart des manifestants tués depuis le coup d'État du 1er février. Situation qui a conduit un soldat a déserté, un capitaine de 30 ans que Jean-Sébastien Soldaini a réussi à contacter pour Europe 1. Il nous le présente.
Ong Myat vit reclus, caché chez un ami à quelques mètres de son régiment. Il dit avoir pris un mois de réflexion pour déserter, 6 jours de préparation. Décision prise un soir après avoir participé à une journée de répression.
J'ai vu aux infos que des manifestants étaient tués. J'ai su qu'un jour, on pourrait me donner l'ordre de tirer à balles réelles. Je refuse de le faire face à des manifestants pacifiques. Je suis parti avant qu'on m'en donne l'ordre.
Depuis, il a créé un profil Facebook où il pose en uniforme en levant 3 doigts vers le ciel, signe de ralliement des protestataires birmans. Avec ça, il sait que son sort est scellé.
Ils finiront par me trouver de toute façon. Peut-être d'ici 2 semaines. Alors, tout ce que je veux, c'est faire savoir ce qu'il se passe ici. Ensuite, j'informerai mes supérieurs pour qu'ils viennent m'arrêter. Je risque la peine de mort, mais je le mérite et je ne veux pas fuir. Je suis à Rangoon, on ne peut aller nulle part.
Nulle part, comme piégé dans sa ville, quant à la peur des jours à venir, il la balaie.
Just desperate. Ce
n'est pas du courage, dit-il, uniquement du désespoir.
Récit de Jean-Sébastien Soldaini.
Les maisons de vente aux enchères sont des cavernes d'Ali Baba, hein, où l'on trouve des bibelots, des meubles, des voitures parfois. Mais aujourd'hui, sur le site Interenchères, la star de la vente sera invisible.
Mais on va sans doute se l'arracher, car ce sont des bitcoins confisqués lors d'une procédure judiciaire. Clément Le Saffre, c'est une première.
Oui, parce que d'habitude, ce sont des vêtements, des bijoux, des voitures volées que l'on trouve dans ce type d'enchères. Cette fois, la grâce que l'agence qui gère les biens confisqués par l'État met en vente, 611 bitcoins saisis dans les poches de criminels. Au cours actuel de 46 000 euros le bitcoin, le butin vaut plus de 28 millions d'euros. La vente aux enchères se déroule en deux temps. D'abord, des petits lots, par exemple une moitié de bitcoin, puis des gros lots pour ceux qui ont les moyens de s'acheter 10 bitcoins d'un coup. Un découpage décidé par Ghislaine Capanji, la commissaire-priseur.
J'ai voulu que cette vente puisse intéresser un peu tout le monde, du particulier qui souhaite faire un investissement dans une partie de Bitcoin ou un Bitcoin ou deux Bitcoins, jusqu'aux investisseurs qui sont bien évidemment plus intéressés par des lots plus importants.
Pour les premiers lots, le prix de départ a été fixé à 50% du cours du Bitcoin, puis les mises à prix évolueront tout au long de la journée hein, en fonction des fluctuations du cours et de l'intérêt des enchérisseurs. On connaîtra donc ce soir le montant du pactole touché par l'État. Et cette première vente aux enchères en appelle d'autres hein, à l'avenir, la grâce que Satan a récupéré de plus en plus de Bitcoin parmi les biens des criminels.
Même un demi-Bitcoin, c'est déjà le prix d'une voiture, 23 000 euros.
C'est noté. On va acheter nos voitures en Bitcoin désormais. Merci François Geffrier. C'était le journal de 8h sur Europe 1. Il est 8h14.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Et dans un tout petit instant, Sonia Mabrouk et son invitée ce matin, Mélanie Luce, la présidente de l'UNEF. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h16 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invitée ce matin, la présidente de l'UNEF, Mélanie Luce.
Bienvenue à vous et bonjour Mélanie Luce.
Bonjour.
L'UNEF et d'autres syndicats et mouvements jeunesse se sont mobilisés hier pour dénoncer la précarité de nombreux étudiants face à la pandémie. Mais s'il y avait une mesure à adopter d'urgence, laquelle réclamez-vous ?
L'augmentation des bourses et des aides au logement, c'est ça l'urgence. Il faut des mesures qui permettent d'avoir de l'argent directement dans la poche des étudiants et de manière immédiate. Parce que là, la situation n'est plus tenable. On a des étudiants qui continuent de faire la queue aux distributions alimentaires, des étudiants qui en viennent à dormir dans leur voiture, il y a quand même ce genre de témoignages, et qui ont accumulé les dettes de loyer. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu une aide de 150 euros en décembre sur l'année universitaire en cours quand on est boursier. Ça correspond à 12,50 euros par mois. Ça, c'est largement insuffisant
par rapport
à la crise.
Pour résumer, vous avez eu le gel du montant des loyers CROUS, le ticket U à 1 euro pour tous les étudiants, le gel des droits d'inscription pour la seconde année d'affilée, le doublement des aides d'urgence. Vous estimez que le gouvernement, avec tout ça, ne prend pas au sérieux cette situation ?
Bah, quand vous me parlez de gel, ça veut dire que vous êtes en train de me dire que le fait qu'il n'y ait pas d'augmentation des frais d'inscription, qu'il n'y ait pas d'augmentation des prix donc de ce qu'on paye, ça doit être considéré comme une grande avancée dans une période de précarité extrême. Bien sûr qu'on est content de voir qu'il n'y a pas d'augmentation, mais encore heureux. On a des étudiants qui sont au plus bas. Un chiffre. Lors du premier confinement, on a 36% des étudiants qui exerçaient une activité, donc qui étaient salariés, hein, qui l'ont perdu. Ça correspond à une perte de 274 euros par mois. Face à ça, vous ne pouvez pas me dire que simplement la non-augmentation des frais d'inscription est une réponse. Et d'ailleurs, surtout quand l'augmentation des frais d'inscription a été introduite dans la loi par la ministre aujourd'hui en exercice. Donc à partir de ce moment-là, bien sûr qu'on est content qu'il n'y ait pas d'augmentation. Par contre, ce qu'on attend, c'est des vraies mesures des vraies solutions par rapport à nos difficultés.
Et on va continuer à en parler, évidemment, c'est un sujet important. Mélanie Luce, ça fait 2 ans que vous présidez l'UNEF et on va vous présenter aussi aux auditeurs qui vous découvrent peut-être ce matin. Je vais citer vos propres mots. Je cite « Je suis la première présidente racisée de l'UNEF ». Racisée, à quel groupe racisé aux catégories raciales estimez-vous appartenir ?
Le mot racisé, il signifie simplement que je suis une personne qui n'est pas blanche. Et donc que je suis la première femme à ne pas être blanche, à diriger l'UNEF, qui est une organisation qui existe depuis plus de 110 ans. Ça interroge.
Vous considérez donc la couleur de peau comme une identité, une construction sociale ?
Je considère que c'est même pas moi qui considère. C'est-à-dire que la société me fait comprendre au quotidien qu'effectivement, à ma couleur de peau, on rattache des stéréotypes. C'est ça le mot racisé. C'est un mot sociologique qui signifie simplement qu'effectivement, s'il n'existe pas de race biologique, il existe des races sociales. Et la race sociale, c'est-à-dire, c'est une construction effectivement de la société.
Mais en vous présentant ainsi, vous-même, vous actez du fait de l'existence de race et d'une assignation racialisante.
Non, pas du tout.
Vous vous présentez ainsi.
En me présentant ainsi, je fais un constat. Je fais le constat simple qui est qu'aujourd'hui, l'UNEF, en 110 ans d'existence, n'a pas eu de présidente qui était non blanche. Je fais aussi le constat de dire que bah, quand on s'appelle Mohamed aujourd'hui en France, on a 10 fois plus de difficultés à trouver un emploi.
Ça veut dire vous estimez qu'il y a un racisme systémique, institutionnel, venant des Blancs?
Alors la question, c'est pas venant des Blancs. Je considère...
Vous vous présentez comme non blanche, donc je me permets de vous demander si à l'inverse, il y a un racisme, une discrimination venant des Blancs à votre égard et à l'égard d'autres personnes.
Le constat qu'on fait, c'est simplement qu'effectivement, on est dans une société qui reproduit les discriminations. On reproduit le sexisme. Aujourd'hui, on a un écart de salaire entre les femmes et les hommes qui est de 23%. Ça s'appelle une reproduction du sexisme par la société. C'est pas simplement quelques recruteurs qui sont sexistes.
Je vous parle du racisme. Et est-ce que vous considérez qu'il y a un racisme d'État,
vous voulez que je vous réponde?
Oui, parce j'aimerais bien.
Si vous voulez que je vous réponde,
dans ce qui est possible.
Oui, mais il faut faire une comparaison. À partir du moment où on a un sexisme qui est ancré partout, on peut faire la comparaison avec le racisme. Pourquoi, quand on s'appelle Mohamed, on a 10 fois plus de difficultés à trouver un emploi? Pourquoi, quand on regarde les écarts de salaire, on voit non seulement que il y a des écarts entre hommes et femmes, mais qu'il y a aussi des écarts entre personnes d'ascendance immigrée et des personnes qui n'ont pas d'ascendance migratoire. Ça montre qu'il y a effectivement des inégalités qui sont ancrées dans notre société et qui démontrent que tout au quotidien, on va reproduire ces discriminations.
Et vous dénoncez,
ça ne veut pas dire que ce sont uniquement les personnes blanches qui vont le faire.
J'imagine que vous dénoncez toute forme de racisme.
Bien sûr.
Y compris le racisme anti-blanc.
Alors, attention, parce que je pense que la question, c'est...
Attention. Non, elle est claire. Ma question, permettez-moi de la voir et ayez votre réponse. Est-ce que vous dénoncez aussi le racisme anti-blanc?
Est-ce que vous considérez qu'il y a un racisme organisé? Est-ce que vous considérez quand on est blanc aujourd'hui, on ne peut pas accéder à un emploi, on ne peut pas accéder à un logement, on ne peut pas...
Je vais vous citer quelques tweets et vous allez me dire si c'est du racisme ou du mépris anti-blanc. Plusieurs membres de l'UNEF lors de l'incendie de Notre-Dame, où il était question, je cite, de gens qui pleurent des bouts de bois, de délire de petits blancs ou encore de blancs qui font pitié. N'est-ce pas là du mépris anti-blanc ou une forme de racisme?
Attention, quand vous parlez de mépris, c'est pas pareil que de racisme. Il peut y avoir des discriminations qui sont subies par les personnes
mais
blanches. Et dans ce cas-là, c'est effectivement inacceptable. Mais vous posez une question, je vous réponds. Quand il y a une discrimination, des violences qui sont envers des personnes blanches parce qu'elles sont blanches, bien sûr que c'est inacceptable.
Mais est-ce que c'est le cas
la
ici?
La différence sur les termes...
Vous ne me répondez pas.
Non, ben oui, mais si, je vous réponds. La différence sur les termes, elle est simplement due au fait qu'aujourd'hui, les personnes qui vivent du racisme au quotidien, qui, dans leur vie, ne peuvent pas accéder à un emploi.
Est-ce que vous considérez que cette suite de responsables...
On fait une différence sur les termes.
Bien.
C'est pas d'ailleurs moi qui ai inventé cette différence.
Est-ce que vous considérez que ces tweets...
Excusez-moi, je finis.
Est-ce que vous considérez que ces tweets et membres de l'UNEF
sont une forme de mépris
anti-blanc? Je vais
revenir dessus, mais laissez-moi finir de vous répondre. Ce mot racisme anti-blanc, d'où il vient? Il vient au départ de Jean-Marie Le Pen. C'est le premier à utiliser ce terme dans les années 90.
Je vois bien l'extrême droite. Mais dites-moi, est-ce que vous considérez que ces tweets, est-ce que vous les dénoncez? Est-ce que c'est du mépris, voire une forme de racisme anti-blanc?
Mais ces tweets, je les ai déjà dénoncés. J'ai déjà expliqué que l'UNEF n'était pas du tout associée à ces tweets-là.
Donc vous n'avez jamais, par exemple, tenu ou toléré des réunions en non-mixité raciale lors de votre bureau national de l'UNEF?
Excusez-moi, mais ça n'a rien à voir.
Ah
donc,
bon,
est-ce que vous voulez des vraies réponses?
Je les attends depuis tout à l'heure.
Très bien,
dans
ce cas-là, laissez-moi répondre.
Mais est-ce que vous avez jamais tenu ou toléré des réunions en non-mixité raciale lors de votre bureau national de l'UNEF? La question est simple.
Donc, très bien, laissez-moi expliquer. La question, c'est pas est-ce qu'il y a des réunions qui peuvent s'organiser. Les réunions qui s'organisent dans l'UNEF en non-mixité, eh ben, effectivement,
il y en a
en non-mixité femmes, par exemple. Les femmes de l'UNEF se réunissent en non-mixité.
Mais est-ce que vous avez les Blancs sont exclus, Madame Luce? La question est simple.
D'accord, la question est simple. La réponse aussi. Si vous ne me laissez pas répondre, ça ne sert à rien. Dans ce cas-là, pourquoi m'inviter? Donc, vous voulez une réponse? Laissez-moi la dire. La réponse, c'est que aujourd'hui, quand on est une femme, on subit des discriminations. Donc, on organise des réunions pour permettre aux femmes d'exprimer les discriminations qu'elles peuvent subir. Et on organise aussi des réunions pour permettre aux personnes qui sont effectivement touchées par le racisme de pouvoir exprimer ce qu'elles subissent. Ça ne veut pas dire que c'est des réunions dans lesquelles on prendrait des décisions. Il n'y a aucune décision qui est prise en non-mixité
donc,
dans l'UNEF.
Donc la
dans l'UNEF, on considère que la lutte contre le racisme, elle doit se faire avec, d'un côté, avec à la fois les personnes blanches et les personnes non blanches.
Donc,
on doit la faire
ensemble.
Donc, il
y a des réunions où les non-blancs ne sont pas admis. Et les Blancs ne sont pas ennemis, c'est ça?
Mais je... Enfin, c'est...
Mais oui ou non?
Ça a déjà été expliqué.
Est-ce que ça existe?
Mais je viens de vous expliquer que ça existe.
Bon,
ça existe
donc
comment?
Vous ne considérez pas, vous ne considérez pas la non-mixité comme une discrimination?
Est-ce que vous voulez faire de la surface ou est-ce que vous voulez une vraie réponse comme je vous l'ai expliqué? Oui, il y a des réunions qui s'organisent, mais simplement
voyez,
pour parler des discriminations qui sont subies.
Mais la question est simple, vous m'avez répondu.
Pas pour parler de la manière dont l'UNEF s'organiserait, etc. La question, c'est pourquoi vous trouvez ça problématique qu'il y ait des réunions de personnes qui s'organisent, qui discutent simplement des discriminations qu'elles subissent quand ce sont des personnes qui sont racisées et pas quand ce sont des femmes. Pourquoi?
La non-mixité donc n'est pas une discrimination à vos yeux, on l'entend ce matin.
Non, je vous pose une question aussi. Pourquoi vous considérez que c'est différent ?
Madame, ce n'est pas moi qui organise des réunions où les blancs ne sont pas admis.
Non, mais
vous êtes invitée
je
ce matin.
Vous pose aussi la question de pourquoi on considère ça différent quand ce sont des personnes qui parlent simplement du racisme qu'elles ont pu vivre et quand ce sont des femmes qui parlent du racisme, du sexisme qu'elles
on
ont pu
vivre. On entend votre argumentaire. Venons-en à l'affaire qui a secoué l'IEP Grenoble et bien au-delà. L'affichage de noms de deux professeurs accusés de prétendue islamophobie a été relayé sur les réseaux sociaux, sur le compte Twitter de la section UNEF de l'IEP. Votre syndicat a-t-il participé à la mise en danger de ses professeurs ?
Notre syndicat, déjà, n'a pas participé à cet affichage. Par contre, on a déjà exprimé plusieurs fois avoir regretté le poste qui avait été fait. Il y a donc effectivement une photo qui a été relayée sur les réseaux sociaux. Dans cette photo, il y avait quoi ? Il y avait déjà les photos du collège tout le collège. C'est-à-dire que c'était un collège pas que sur ses enseignants. Il y a des collèges qui dénonçaient les agressions qui étaient subies à l'IEP. Et effectivement, on a expliqué plusieurs fois que c'était une erreur de relayer ces photos. On a d'ailleurs eu l'occasion de s'excuser auprès de l'enseignant en question. C'est une erreur qui était à la fois maladroite parce que en aucun cas la section locale de l'UNEF a voulu mettre l'enseigne vindicte sur ces personnes-là.
Vous apportez ce soutien clair et franc à ces deux professeurs dont les noms ont été placardés sur les murs au nom d'une prétendue islamophobie.
Mon soutien face aux menaces qu'ils peuvent subir, oui. Par contre, je pense qu'il y a deux sujets.
Il y a un mais ?
Non, il y a deux sujets. Il y a la question du placardage qui est inadmissible et à laquelle l'UNEF ne s'est jamais associée.
Mais, tiens, qu'est-ce qui est inadmissible ? Parce que rappelons ce qui a été placardé, Mélanie Luce, il y a les noms, et puis juste en dessous, il était inscrit « L'islamophobie tue ». Est-ce que vous pensez aujourd'hui que l'islamophobie tue dans notre pays ?
Alors, je pense qu'il faut revenir sur plusieurs
sujets. La question est assez claire, elle appelle une réponse.
Qu'est-ce que vous appelez islamophobie ? Parce que j'ai vu vos différentes descriptions et je trouve que la description n'est pas bonne. Je suis allée donc, avant cette interview, regarder tout simplement dans le dictionnaire. Qu'est-ce que me dit le dictionnaire ? Que l'islamophobie, c'est l'hostilité envers l'islam et les musulmans. L'hostilité envers l'islam et les musulmans, c'est ce qui a amené effectivement des terroristes d'extrême droite à faire une tuerie sur la mosquée de Christchurch. C'est ce qui a amené aussi l'extrême droite en France
Madame
à incendier une mosquée.
Après des accusations d'être islamophobe, Charb et ses amis ont été tués à Charlie Hebdo. Après avoir été accusé d'être islamophobe, l'enseignant Samuel Paty a été décapité dans notre pays. Je vous pose une nouvelle fois la question. Qu'est-ce qui tue dans notre pays ? L'islamophobie ou l'islamisme ?
Y a les deux, et tout simplement.
Les deux ? Pouvez-vous me donner un nom de quelqu'un qui a été malheureusement tué à cause de l'islamophobie ?
Mais qu'est-ce que je viens de le faire ? Vous ignorez toutes les victimes de la mosquée de Christchurch ? Vous ignorez aussi toutes les victimes de Biarritz il y a quelques années ?
Pourquoi vous avez du mal à répondre ? Est-ce que c'est parce que
l'UNEF... J'ai pas de mal à répondre.
L'UNEF a des accointances avec des associations communautaristes sur l'islam politique ?
C'est-à-dire que vous avez décidé que l'islamophobie, c'était une définition que vous avez acceptée vous-même, mais qui n'a aucune cohérence scientifique. La définition de l'islamophobie, c'est l'hostilité envers les musulmans et l'islam. À partir de ce moment-là, si on parle d'hostilité envers les musulmans, la question c'est est-ce qu'on accepte dans notre pays l'hostilité envers les musulmans ? Je ne pense pas qu'il faut l'accepter. Après, il y a la question de comment on lutte contre cette hostilité. Et effectivement, on ne lutte pas contre cette hostilité en placardant des noms sur un
Madame,
campus. Et ça, c'est
conclure.
Certain. Et c'est ça qui pose problème.
Il est où l'universalisme de l'UNEF d'autrefois ? Il est où ? Et je vous pose la question de l'universalisme et pas en écriture inclusive.
Alors, l'universalisme de l'UNEF, bien sûr, l'UNEF est toujours universaliste. Et l'universalisme,
sûr, oui.
Pour moi, c'est simplement un objectif. C'est-à-dire, pour être universaliste, il faut avoir comme objectif que la couleur ne compte pas. C'est ça l'objectif. Aujourd'hui, malheureusement, la couleur compte. C'est-à-dire que être un homme qui est noir ou arabe, c'est 20 fois plus de chances de se faire tuer par la police. Ensuite, j'ai quand même une photo à vous montrer avant qu'on conclue cette interview.
C'est un peu plus compliqué en radio,
que...
mais on le verra
non,
sur
mais,
notre
mais
site.
C'est pas grave. On n'arrête pas de nous dire que l'UNEF aurait été contre le port du voile à l'université. Et quand vous me dites l'universalisme de l'UNEF, où est-il passé ? Vous me faites référence à ça. Ça, c'est la position de l'UNEF en 2013. C'est-à-dire, interdire le voile à l'université, c'est contre-productif. C'est ça la position de l'UNEF en 2013. Donc l'UNEF, elle n'a pas changé de position sur ces sujets-là.
Chacun
la seule chose qu'elle fait aujourd'hui,
Madame
c'est
Luce.
Défendre
Beaucoup
tous les étudiants.
Votre idéologie
par ailleurs,
et vos combats intersectionnels.
Vous commenciez votre interview
Chacun
par parler de la précarité étudiante et des
On
difficultés des étudiants. La priorité, c'est quand même ça. On
Merci.
A parlé sur toute
vous
cette interview deux
répondre.
Minutes sur ce qui se passe
vous
pour les étudiants. Alors que les étudiants meurent de faim, meurent d'angoisse. C'est ça aujourd'hui
Merci
le sujet. C'est pas la polémique idéologique comme le décrivent aujourd'hui les enseignants de Grenoble qui témoignent dans Le Monde aujourd'hui de ce qu'ils subissent. Donc je pense qu'il faut à la fois aller fouiller cette enquête, notamment en regardant ce qu'a pu dire
Madame Luce, on arrive à la fin de cet entretien. Bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs.
Merci Sonia Mabrouk, 8h29 sur Europe 1. Suivre l'info, la météo. À tout de suite.
Europe Matin.
Le 7-9.
Mathieu Béliard.
8h31, un nouveau point sur l'info avec Marion Calais.
Conseil de défense sanitaire dans une demi-heure à l'Élysée. Après des discussions hier avec le conseil scientifique et des réanimateurs, le chef de l'État va devoir trancher sur un éventuel reconfinement de l'Île-de-France, région où les données sanitaires ne s'améliorent pas, comme l'a reconnu le Premier ministre Jean Castex dès hier soir.
On est dans une situation préoccupante, critique et très clairement des mesures du type de celles que nous avons utilisées ou auxquelles on a eu recours dans les autres parties du territoire sont très clairement sur la table. Et il me semble en tout cas qu'effectivement le moment est venu pour envisager des dispositions pour la région francilienne.
Jean Castex hier soir sur BFM Télé, le chef du gouvernement qui a affiché sa confiance quant à une reprise rapide de la vaccination avec les doses d'AstraZeneca. Il a d'ailleurs annoncé qu'il se fera lui-même vacciner pour montrer l'exemple. Et tout juste un an après le début du confinement, cette proposition ce matin du patron de la Fédération hospitalière de France, dans le Parisien aujourd'hui en France, Frédéric Valletoux appelle à faire du 17 mars une journée nationale de célébration des soignants de l'hôpital public. Un représentant syndical de la police révoqué pour un tract visant l'ancien directeur général de la police nationale et l'ancien ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Jusque-là, secrétaire général de Vigie, syndicat minoritaire, Alexandre Langlois dénonce une attaque inédite de la liberté d'expression syndicale. Le foot, qualification hier de Manchester City et du Real Madrid pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Le Real mis sur la route de la victoire par Karim Benzema, auteur du premier but de la soirée. 70e réalisation en compétition européenne et victoire finale du Real 3-1 contre l'Atalanta Bergame. Et puis lui pourrait bien profiter de l'annulation aujourd'hui des épreuves de descente pour s'imposer dans la Coupe du Monde de ski. Alexis Pinturo toujours en tête de la compétition qui se termine en Suisse. C'est la dernière épreuve jusqu'à dimanche. Alexis Pinturo qui a maintenant rendez-vous demain pour le Super G.
J'ai pris plaisir à regarder quelques compétitions de ski, vous savez, on est privé de piste.
Mais c'est génial.
De temps en temps, on se dit, bah tiens, eux, ils ont pu monter.
On en rêve.
Et ils descendent très vite. Merci beaucoup, Marion Calais. C'était le rappel de l'info. Laurent Cabrol est avec nous. Du froid qui arrive, Laurent, mais pas de neige.
Si, de la neige dans les régions du nord et du nord-est essentiellement entre la nuit de jeudi et vendredi et la journée de vendredi. Ah, ça sera pas vraiment, ça sera l'hiver. Hein. Le printemps approche, mais c'est l'hiver qui résiste et résiste bien. Justement, puisque vous parlez de l'avenir, eh bien jeudi donc une zone de pluie franche près des frontières du nord et du nord-est avec de la neige à la clé. Et puis vendredi, toute la partie sud sera sous des pluies ou de la neige à partir de 400 mètres. Vous voyez que ce sera vraiment l'hiver sur la moitié nord. Des éclaircies, mais un vent froid. Et puis samedi, dimanche, alors samedi, jour du printemps, dimanche, nous serons le 21, soleil et vent en général, mais le soleil s'installe. Et il s'installe durablement pour la semaine prochaine, le soleil, mais les températures seront quand même très basses et de même de plus en plus basses, avec de fortes gelées durant la semaine prochaine. Vous voyez que ce sera une forme d'hiver qui sera peut-être plus sympathique que celle que nous avons en ce moment, mais enfin, ce sera quand même un temps hivernal. Pour vous dire simplement, pour vous rappeler aujourd'hui que sur l'Atlantique, c'est pas mal, sur les régions de l'Est, c'est giboulé. Et de Paris au Limousin et la Lorraine, c'est nuageux avec quelques petites gouttes. Ouais.
Vous avez commencé le potager chez vous, Laurent ?
Il ne faut pas y toucher encore. Hein.
Pas encore. Hein.
Non,
mais je vous entendais, le printemps qui arrive avec des températures glaciales. Non. On va patienter. On va patienter au chaud. La cheminée reste active. Merci, Laurent Cabrol. 8h35 sur Europe 1. Notre santé, on prend soin les uns des autres à présent. Le docteur Jimmy Mohamed.
Et ce matin, je vais vous parler d'un mot qu'on a tous entendu partout depuis quelques jours, la thrombose. Thrombose qu'on peut éviter et dont on a un traitement.
Oui, bah c'est peut-être bien d'en parler, de savoir ce que c'est que cette thrombose dont on parle. À tout de suite, Jimmy.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h37 sur Europe 1. Jimmy Mohamed, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Notre santé, et vous nous parlez ce matin d'un nouveau mot dont on se serait bien passé hein, ces derniers jours, mais bon, qui est venu enrichir notre vocabulaire médical, la fameuse thrombose. À quoi correspond une thrombose, Jimmy ?
Alors c'est extrêmement simple, la thrombose, c'est l'obstruction d'une artère ou d'une veine, et donc c'est un caillot qui va bloquer la circulation sanguine. Lorsque cela touche une veine, on appelle ça la thrombose veineuse. Et celle qu'on connaît tous et qui est la plus fréquente, c'est la phlébite, c'est-à-dire celle qui va toucher les veines au niveau de vos jambes. C'est 50 à 100 000 patients chaque année, donc c'est quelque chose qu'on connaît très bien. Et la phlébite, ça va se manifester par une douleur au niveau de votre mollet qui va être rouge, chaud, douloureux et dont on fait le diagnostic assez facilement avec une échographie Doppler. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire ces échographies et d'avoir le diagnostic ? Car on sait que la phlébite et ce petit caillot peuvent remonter au niveau de la circulation sanguine et donner ce qu'on appelle une embolie pulmonaire dont le diagnostic se fait aussi facilement avec un scanner thoracique. Et à ce moment-là, vous allez évidemment avoir des symptômes comme des douleurs à la poitrine et un essoufflement. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on a un traitement, ça s'appelle des anticoagulants pour fluidifier le sang, non pas pour dissoudre le caillot, mais pour éviter l'apparition de nouveaux caillots. Car finalement, le caillot, lui, va se dissoudre tout seul. Et donc la phlébite, on a un traitement, c'est les anticoagulants.
Et alors, sans parler de la vaccination et des débats qu'on a pu avoir ces dernières heures, la thrombose survient d'ordinaire dans un contexte particulier ?
Oui, dans un contexte très particulier, avec des facteurs de risque. On a l'impression que la thrombose, c'est comme la foudre, elle va s'abattre sur vous, alors que non, il y a une situation d'hypercoagulabilité, pardon, où le sang va coaguler de façon excessive. On sait que certains patients vont faire des phlébites ou des embolies pulmonaires car il y a une prédisposition génétique. Et puis, il y a d'autres situations, comme la grossesse ou l'obésité, où vous êtes plus à risque. Et puis, notamment la chirurgie, ou après un long voyage en avion ou en voiture. C'est pour ça qu'on vous dit souvent de mettre des bas de contention. Et puis, n'oubliez pas que certains médicaments, dont la pilule contraceptive, peuvent augmenter ce risque de phlébite et de thrombose. Et puis, au nom du principe de précaution, il faudrait peut-être aussi interdire le tabagisme. N'oubliez pas que le tabac, c'est pourvoyeur de thrombose veineuse, mais aussi artérielle, avec l'accident vasculaire cérébral ou même un infarctus. Et puis, dernière chose, je terminerai avec ça, il y a un virus dont on parle en ce moment, qui s'appelle le coronavirus, qui donne aussi des thromboses. Souvenez-vous du premier patient dont on avait parlé, eh bien, malheureusement, il avait une embolie pulmonaire. Et donc, tout ça pour vous dire que cette histoire de thrombose est beaucoup plus complexe que ce qu'on veut bien expliquer initialement et qu'il va falloir patienter et peut-être rassurer les gens d'ici quelques jours.
Merci beaucoup, Jimmy Mohamed. Dans son rendez-vous tout à l'heure, comment prendre en charge l'obésité.
Et oui, une maladie qui est beaucoup plus compliquée que ce qu'on pense et qui ne se résume pas à un manque de volonté ou à une mauvaise alimentation. Vous allez voir, c'est passionnant.
Entre 15h et 16h, c'est sans rendez-vous. L'émission Santé d'Europe 1, Jimmy Mohamed et Mélanie Gomez. Merci Jimmy. 8h40, notre planète avec Fanny Agostini. Bonjour Fanny.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Alors Fanny, vous nous dites que la Commission européenne tient en ce moment une consultation publique pour accélérer la préservation de la nature dans l'Union européenne. Et c'est important qu'on y prenne part.
Oui, c'est une consultation, je dois dire, assez exceptionnelle, dans le sens où elle vise à récolter les opinions de toute la population européenne, rien que ça. Enfin, tous ceux qui le souhaitent, du citoyen lambda jusqu'aux organisations publiques ou privées. Le sujet central de cette consultation est quels objectifs l'Union européenne devrait-elle se fixer pour préserver la biodiversité et le climat à horizon 2030. On peut dire que l'initiative est quand même louable. Je suis d'ailleurs assez étonnée. C'est plutôt une bonne chose que les décisionnaires de l'orientation écologique de l'UE fassent appel au grand public pour affiner leurs décisions et ça se traduira en vrai texte de loi d'ici 2021.
Alors pour cela, il faut juste répondre à un question.
Alors oui, on vous invite à nous prononcer sur quelles devraient être les nouvelles priorités en matière de changement climatique, de préservation de la biodiversité. On nous demande par exemple si les objectifs fixés auparavant étaient trop vagues, si la responsabilité juridique des entreprises ou des gouvernements n'était pas assez clairement énoncée, ou bien si le problème était plutôt que les objectifs de protection de l'environnement n'étaient pas juridiquement contraignants.
Mais alors comment on fait pour se faire un avis sur chaque question posée ? Question posée parfois dans un jargon technique difficile à comprendre.
Oui, c'est vrai que c'est très jargonnant, le terme est bien choisi, parce qu'à force de définitions toutes plus précises les unes que les autres, on s'y perd vite, notamment quand il s'agit de donner ce qui, selon nous, devrait être une priorité en termes de protection de la nature. Alors, pour aider les citoyens, comme vous et moi, à y voir plus clair, un réseau d'ONG, dont le WWF, s'est réuni sous le hashtag Restore Nature, et ils font circuler une pétition dans laquelle ils partagent et expliquent leurs réponses à cette consultation, et ainsi, cela nous aide, nous aussi, à mieux répondre. Pour parler concrètement, le plus important, selon les ONG, la priorité des priorités, c'est de rendre 15% de la surface européenne entièrement naturelle d'ici 2030. Aussi, de fixer des objectifs précis, juridiquement contraignants et dont les responsables sont explicitement nommés. Sans cela, les organisations anticipent que ce texte sera vidé de sa substance, comme d'habitude, et finira en énième tentative de greenwashing d'ici son passage devant la Commission fin 2021. Alors, j'ai envie de dire ce matin, tous à vos claviers, la consultation est à trouver sur le site europa.ue. N'oublions pas que nous avons tous le droit de nous prononcer et de faire pression.
Europa.eu, European Union.
C'est ça. Europa.eu. C'est ça, pardon, j'ai inversé.
Ah oui,
merci,
non, mais c'est pour qu'on puisse tous aller répondre à ces questions. Europa.eu, on va y aller. Merci Fanny Agostini. On nous demande notre avis, on va le donner. À demain Fanny.
À demain.
8h42. Dans quelques toutes petites secondes, Nicolas Canteloup qui arrive, Julie qui s'est déjà installée. Très bon réveil.
Europe Matin. Le 7-9. Mathieu Béliard.
8h46, ils sont là. Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est
Presque de l'info, c'est la revue de Presque de Nicolas Conteloup. Et elles sont encore dans le studio, Sonia Mabrouk et son invité.
Oui.
Hein? Oh.
Non mais écoutez, je vais vous dire une chose. Non mais madame, non mais en fait, c'est plus subtil que ça.
Cet entretien est terminé.
Non mais il y a des nuances. Non mais madame Mabrouk, si vous ne me laissez pas m'exprimer,
non,
c'est pas la
mais
peine.
Mais c'est la fin de cette interview, madame Luce.
Il y a une différence entre l'islamophobie et l'islamisme.
Merci, merci beaucoup d'être intervenu sur Europe 1. Merci beaucoup.
Excusez-moi, mais j'ai ouvert le dictionnaire avant de venir.
Nous avons compris.
C'est le rejet des personnes d'origine musulmane.
Voilà, c'est terminé.
Nous le dénonçons, nous n'oublions pas le.
Oui, on a compris. C'est bon, cet entretien est terminé. Merci. Je garde mon calme.
Si vous ne me laissez pas
très calme. Je suis très calme, mais je vais t'en mettre une.
Alors que
oui, 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 bien sûr, on a compris. C'est bon. Voilà. Très bien, merci. Merci d'être intervenu sur Europe 1.
C'est pas la peine que je vous m'invitiez. Il y a deux sujets différents.
Oui. Oui, bien sûr.
Oui, ça va aller, je crois.
Bien sûr.
Merci, Mélanie Luce.
Merci.
Merci,
Sonia.
Merci
à Mélanie Luce. Voilà. Regardez le monde pas changé du tout, puisqu'il y a un an, jour pour jour, vous le savez, jour pour jour, on était déjà confinés. Et c'est vrai que ça a payé. Un an après, on ne regrette pas du tout. Ça valait le coup. On voit où on en est aujourd'hui. Désolé, Julie, j'ai regardé Jean Castex hier et je sens bien que je vais devoir retourner animer la matinale depuis mon garage entre mes marteaux et mes clés à molette. Allez, en plus, ce matin, j'interview le philosophe André Comte-Sponville. Le mot sport. Je pensais que je le connaissais. Eh ben non. Le sport pour Dédé, c'est une activité auto-centrée qui tend vers elle-même et non vers l'extérieur.
Oula.
Ouais, une activité auto-centrée qui tend vers elle-même et non vers l'extérieur. Et j'ai rien compris au sport ce matin.
Bah, bref. Non plus. Hein.
L'info du jour. Allez, c'est l'intervention, vous l'avez compris, de Jean Castex hier soir dans laquelle il a plus que préparé le terrain à un reconfinement en Ile-de-France. Comme en peinture, hier, il a mis la première couche. C'est l'artisan du gouvernement, Jeannot. Voilà, il a mis la première couche. Voilà. Ouais. L'autre info, allez, c'est le gouvernement. J'ai même pas compris ma propre vanne.
Si,
allez,
si, nous, on a
l'info,
suivi.
Oui, bon. Ça va, c'est tant mieux. Donc, on se fera éclairer par Mélanie Luce. Allez, l'autre info, c'est le gouvernement et les professionnels. Le gouvernement et les professionnels du secteur qui ont indiqué travailler sur un plan de réouverture en trois étapes. Pour les restaurants, les hôtels et les bars. En exclusivité, nous avons ces trois étapes. Étape 1, le gouvernement annoncera une date de réouverture. Étape 2, les restaurateurs se préparent à rouvrir. Et la troisième étape, la plus passionnante, le gouvernement annonce qu'il ne peut pas rouvrir. Oui, depuis le temps, on a l'habitude. Je crois à travers ce que je dis que j'ai pas un gros moral, moi.
Non, nettoyez votre garage, hein, parce qu'il risque de servir dans pas longtemps, Mathieu. Allez, on a pu lire un peu partout. La suspension du vaccin AstraZeneca mettrait à mal la stratégie vaccinale du gouvernement. Bonjour Jean Castex.
Fée, bonjour, papy, mamie, qui ont reçu leur première dose de vaccin AstraZeneca et qui attendent avec une impatience modérée la deuxième couche.
Alors, je le disais, la suspension du vaccin AstraZeneca mettrait à mal la stratégie vaccinale du gouvernement. Mais quelle est cette stratégie au juste ?
Je n'en sais rien.
Oh bah d'accord.
Enfin, si, attendre. Avant, nous attendions la livraison des vaccins AstraZeneca qui ne venaient pas. Mais sans vaccin, on attend quoi ? Et c'est ça la question. On est perdu maintenant. Pour faire simple, avant on était paumé, là on est perdu. Ce n'est pas pareil. Et ça remet donc bien en cause notre stratégie vaccinale.
Ah bah c'est plus clair. Un mot de cette prime de 1000 euros pour les bas salaires. Hein. Au début, on pouvait lire dans la presse, Jean Castex annonce une prime de 1000 euros. Et puis c'est devenu Jean Castex annonce que les entreprises pourront verser une prime de 1000 euros. Les entreprises.
Hein ? Oui, pourront. Mmh. C'est très important. Vive. Vous faites bien, Madame Leclerc, ouais. De parler de cette nuance. Mmh. Effectivement, dorénavant, les entreprises pourront verser une prime. Mais nous savons, ils ne voudront pas, bien sûr. Mais ils pourront. Ils pourront également donner une Ferrari à tous leurs employés s'ils le veulent. Mais ne comptez pas trop dessus tout de même.
Non, mais écoutez, je vais vous dire une chose. Non, mais Madame, oui. Non, en fait, c'est plus subtil que ça. Parce qu'il y a deux.
Cet entretien est terminé, Madame Luce.
Elle est toujours là.
C'est fini, là. Madame Luce.
Luce. Différence entre l'islamophobie et l'islamisme.
Non, mais nous sommes sur le trottoir, Madame Luce.
C'est la définition dictionnaire. Parce que, excusez-moi, mais j'ai ouvert le dictionnaire avant de venir à votre émission.
Non, c'est le rejet des personnes.
Personne ne vous entend.
Parce que nous, à l'INEF, nous dénonçons.
C'est inutile. Nous
n'oublions
pas le massacre.
Et j'espère que.
Oui. Non, nous sommes à la boulangerie, Madame Luce.
Oui, même si c'est à la radio.
Vous de me suivre.
Allez, c'est bon.
Non, c'est pas la radio là.
On peut poursuivre.
Oui.
Allez, merci. On va parler de l'arrivée de ce variant breton. On va en parler avec Arnaud Montebourg.
Ah, je le prends. Salut la compagnie. Bah oui, il était temps quand même. Au bout d'un an d'invasion de variants chinois, du variant anglais, du variant brésilien. Enfin, un variant made in France.
Ah.
Que dis-je? Made in Bretagne.
C'est vrai que
vive
vous êtes...
la Bretagne.
Ouais, bah
ils
oui.
ont le chapeau. Vive les virus bretons.
Vous êtes très made in France, hein, c'est vrai, vous, monsieur Montebourg.
Ah ben oui, là, Juju, tu me connais, même pour les maladies. D'ailleurs, et qu'est-ce qu'on sait du variant breton made in France? Hein, il n'est pas très transmissible, il n'est pas très identifiable. Bref, il est mou, il est français, quoi. Hein, c'est... Par contre, ne surtout pas utiliser de gel à base d'alcool. Parce que ça le renforce, le variant breton. Hein, il n'est pas breton pour rien, le saliot. Hein, elle marcherait jamais à l'export, cette maladie.
Alors, un commentaire peut-être sur le Conseil d'État qui a validé le retour des néonicotinoïdes.
Non, mais là, franchement, le retour des néonicotinoïdes.
Ouais, hein, dites-moi bien
que moi. Oui, oh, ça va. Honte à toi, le Conseil d'État, espèce de serial killer d'abeilles. C'est quoi, le Conseil d'État? C'est le fournirait du miel.
Allez, on rappelle que cet insecticide fait pour protéger les betteraves. Tue les abeilles. Et vous, vous êtes producteur de miel, tout le monde le sait.
Non, mais c'est bien mon bol, ça. Hein, bien. Non, mais franchement, ils sont complètement zinzin au Conseil d'État. Ils préfèrent la betterave au miel. Oh, les saligots, mais qu'est-ce qu'on en a secoué, la betterave, franchement. C'est dégueulasse, tout le monde le sait, les betteraves. T'as déjà vu la gueule des gamins à la cantine quand on leur demande de manger des betteraves?
Bon.
Enchaîne, ma Julie, il y a du goût, là. Oh là là.
L'industrie de la betterave a perdu 280 millions d'euros.
Au moins, avec Luce, il n'y a pas de trou dans le micro.
Ça,
non,
c'est
mais
sûr.
Écoutez, je vais vous dire une chose. Non, mais madame. Oui. Non, en fait, oh là c'est là, plus non, subtil que ça.
Est-ce qu'on peut la débrancher?
Non, mais madame, vous ne pouvez pas m'exprimer. C'est pas la peine que je.
Allez,
merci,
c'est bon.
L'entretien est terminé.
L'industrie de la betterave a perdu 280 millions d'euros sans les néonicotinoïdes. Monsieur Montebourg.
Oui, non, mais tu te fous de ma gueule, là, ou
pas
quoi?
Pas du tout, non.
La France comme somme pour 280 millions d'euros de betteraves.
Bah ouais.
Mais c'est pour ça que les agriculteurs n'arrivent pas à pécho de meufs. Hein, s'il y a que de la betterave à bouffer chez eux, non, je te préviens, je retire ma candidature. Moi, je veux pas être le président d'un pays qui bouffe 280 boules de betterave par an.
Allez, merci, monsieur Montebourg. On reparle de ce variant breton. Un cluster de ce variant a même été détecté dans les Côtes d'Armor. Ce variant breton qui, évidemment.
Excusez-moi, madame Leclerc.
Oh, bah d'accord. Jean-Marie Le Pen, bonjour.
Oui. Bonjour. Et bonjour à l'élégant Métis Béliard.
Mathieu.
Bonjour à monsieur.
Le monde a changé.
Oui. Bonjour à monsieur Cabrol, bonjour docteur Abdel Robert Mitchum.
Qu'est-ce que c'est que ça?
Écoutez, je tenais à réagir, n'est-ce pas, à la découverte de ce variant breton. N'est-ce pas? Car depuis hier, n'est-ce pas, on entend 1000 petites blagues à ce sujet. Le variant breton, il a été analysé, il est composé à 95% de beurre, n'est-ce pas? Le variant breton, il a un chapeau rond.
Oui.
Et le variant breton, si on lui donne du gel hydroalcoolique, il le boit.
Oh, mais ça va, oui.
Mon Dieu, et comme c'est finaud. Alors que ces plaisanteries ne sont ni plus ni moins que du racisme anti-celte et anti breton.
Bah, vous dites ça parce que vous êtes breton, voilà.
Ça n'a rien à voir. Mais sous-entendre, n'est-ce pas, que les Bretons sont alcooliques, c'est perpétuer un cliché odieux et raciste. Wow. Alors, vous me connaissez, j'ai toujours eu le racisme en horreur. Comme je le disais d'ailleurs hier à mon ami Lilian Thuram.
Ah ben non, ça on ne savait pas, vous voyez.
Quoi qu'il en soit, j'en peux plus de ces blagounettes râlées pâquerettes, franchement, de ces bobos parisiens bouffeurs de quinoa qui font de la trottinette sur les quais de Seine en écoutant Yann Barthès et Corinne Mazero dérouler leur bien-pensance végano-bobo-écolo-parisiano. Bisexuelo, gaucho, ouh, intersectionnel.
Ouh,
je
là,
le
là,
dis, halte au cliché.
Je vais vous dire une chose. Non, mais madame. Non, mais en fait, c'est plus subtil.
Oui. Non, mais y a là, vous êtes dans mon dressing, c'est terminé. Madame Luce, je dois me brosser les dents, madame Luce. C'est terminé.
maîtrise
notre entretien
et l'islamisme.
Oui, je merci, on a compris, c'est bon. Allez, dégage.
Sonia Mabrouk est son invité qui est toujours là.
Bravo Nicolas Canteloup, Nicolas, Julie, bien sûr, la revue de presse qui a retrouvé sur Europe1.fr. Et saluons Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demanche, les auteurs de Nicolas. 8h56, Philippe Bordel nous a rejoint, Culture Média. La matinée continue sur Europe 1 de 9h à 11h. Bonjour Philippe.
Évidemment, bonjour Mathieu. Notre infomédia va s'intéresser aux jeux vidéo, une entreprise, une grosse entreprise qui ne connaît pas la crise. Chiffre d'affaires a dépassé les 5 milliards d'euros. C'est en tête des industries culturelles en France et également dans le monde. Et les jeux vidéo vont être célébrés ce soir au Pégase, autrement dit les Césars du jeu vidéo, pour une deuxième édition évidemment totalement en ligne. On sera avec l'un des organisateurs des Pégase, Julien Villedieu, et la cofondatrice d'un studio indépendant. Elle s'appelle Audrey Leprince. Au sommaire également, la chef d'entreprise et animatrice Absa Toussi, qui revient sur RMC Story. Elle a tourné le dos à la polémique. Ça s'appelle Secret de Conso. C'est un nouveau magazine éco. Tout est ici en haut. Et puis Eric Carrière et Francis Ginimbre, autrement dit les Chevaliers du Fiel, c'est eux qui faisaient le plus d'entrées en France, 200 000 spectateurs payants en 2019 avant le lockdown, le confinement. Leur nouveau spectacle, ça sera en direct à la télé sur C8. Ça s'appelle Les Décoiffeuses. Ils seront dans ce studio.
Philippe Vandel, c'est Culture Média de 9h à 11h sur Europe 1, la matinée qui continue. Je vous souhaite une très très belle journée à l'écoute d'Europe 1, bien sûr, hein, toute la journée jusqu'à Mazoyer. Et c'est live du soir, back to live, on en a beaucoup parlé. Moi je reviens demain matin en direct dès 7h. D'ici là, le monde aura changé, on va vous le raconter.